Internet a pris une place considérable dans nos vies. Nos pratiques les plus courantes se sont ajustées très rapidement à ce nouveau mode de communication et de diffusion de l'information. Et Internet à lui seul permet de comprendre un grand nombre de faits sociétaux. Il était donc normal que la sociologie se penche sur cette révolution radicale de nos manières de vivre. C'est aujourd'hui le dossier de la tête au carré pour comprendre ce qui a changé dans nos manières de vivre, de faire des rencontres, d'étudier, de s'exprimer et d'échanger. J'attends dès maintenant justement vos messages et vos questions sur le site de la tête au carré. À la une de la science, Axel Villard, la prolifération des algues nuisibles. Bonjour à vous.
Bonjour, elles fleurissent dans les eaux du globe. Ces microalgues sont la base de la chaîne alimentaire, mais certaines sont toxiques. L'UNESCO dresse un premier bilan des espèces nuisibles. On le feuillette à la une dans un instant.
Stéphanie Texier réalise cette nouvelle tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et Internet, donc, dans nos pratiques et nos relations sociales, c'est le dossier de l'émission dans quelques instants avec mes invités que je salue, les sociologues Olivier Martin et Éric Dagiral. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Internet est donc devenu un sujet dynamique pour votre discipline, la sociologie, Olivier Martin ?
Oui, alors c'était un sujet en même temps un petit peu oublié. Ouais. Donc on a voulu justement, à travers cet ouvrage, à travers d'autres recherches, essayer de replacer Internet un petit peu au centre de la sociologie comme il est au centre de nos vies.
Ouais, c'était assez confidentiel hein, pour l'instant, les travaux.
C'était confiné, disons. Ouais. Confiné.
Éric Dagiral, les pratiques du numérique sur le quotidien, c'est ce qui vous a intéressé justement au travers de cette enquête hein ?
Oui, c'est ce qui nous a intéressé, ainsi que tous les auteurs qui ont participé à cet ouvrage, puisque autant il y a 20 ans, les promesses qui étaient liées à Internet tournaient autour du virtuel, du cyberespace, des choses qui pouvaient nous promettre d'une certaine manière des existences assez différentes des nôtres. Ouais. Autant pour saisir Internet en 2015-2016, il nous semble qu'il faut partir de la vie quotidienne des individus et de regarder précisément la place qu'Internet y prend.
Voilà, et on se retrouve justement dans un instant autour de votre livre « L'ordinaire d'Internet, le web dans nos pratiques et relations sociales » qui vient de paraître chez Armand Collin, et avec bien sûr les messages des auditeurs sur franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque ».
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Elles empoisonnent les coquillages, elles tuent les poissons, elles rendent malades certains baigneurs. Ce sont les efflorescences d'algues toxiques ou HAB en anglais. C'est l'objet d'un rapport de l'UNESCO paru vendredi et qui dresse le premier bilan mondial des espèces et de leur lieu de vie. On en parle avec vous, Philippe Hez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFREMER, responsable du groupement de laboratoire Phycotox. Et puis dans ce studio avec nous également pour commenter cette publication, Hervé Kempf, notre partenaire pour Reporter.net comme tous les lundis. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors les micro-algues, Hervé, qu'il ne faut pas confondre avec les macro-algues, hein, ces algues vertes qu'on connaît bien par exemple malheureusement en Bretagne.
Voilà, tout à fait. Et ce sont les marées vertes dont on parle beaucoup, qui ont tué des sangliers, qui avaient tué un cheval en 2009 et qui en septembre dernier a manifestement été la cause du décès d'un jogger qui courait dans ses vasières. Eh bien non, ce ne sont pas de ces algues vertes dont nous allons parler aujourd'hui, mais d'algues bleues, ou plus précisément des bactéries, des cyanobactéries même. Ce sont des êtres vivants depuis 3,8 milliards d'années, sans doute parmi les premiers êtres qu'on ait identifiés avec certitude. Elles comptent 7500 espèces. Elles ont aussi des bonnes qualités, en quelque sorte. Elles produisent de la photosynthèse, enfin elles sont à la source de la photosynthèse, entre autres. Mais elles pullulent de plus en plus, elles se groupent et font des efflorescences dans les rivières, dans les lacs ou au bord des côtes. Et dans ces cas-là, elles libèrent des neurotoxines qui ont des effets néfastes pour les baigneurs, par exemple, les pêcheurs, etc. Et dans l'actualité, le mois dernier, dans le Béarn, 14 lacs ont dû être interdits à la pêche et à la natation. Dans l'Eure, à Brionne, on a fermé aussi pendant cet été la base de loisirs. La Vilaine, tout récemment, à Rennes, est infestée par ces algues bleues, ces cyanobactéries, et dans le Gers, le lac du Lizet est lui aussi interdit à la pratique de toute activité nautique. Donc c'est un vrai problème et le rapport de l'UNESCO fait un point très utile sur ce phénomène qui est mondial.
Au salé comme au douce, hein, du coup, Axel.
Et oui, Philippe, est-ce qu'on entend peu parler de ces efflorescences d'algues toxiques ? Pourtant, quand on lit le rapport, on découvre qu'elles coûtent 900 millions d'euros par an à l'Europe. À quoi correspondent les dépenses ?
Effectivement, ces algues qu'on traite là sont essentiellement les algues marines. Et donc ce chiffre cité porte essentiellement sur les effets des algues nuisibles et toxiques marines. Donc ça peut être des effets sur la pisciculture, donc les mortalités de poissons, ça peut être en relation avec la mortalité des cheptels conchylicoles. Ça peut également comprendre des effets, des prix que ça coûte au système de santé publique quand c'est les personnes qui tombent malades suite à la consommation de poissons ou de coquillages contaminés.
Et concrètement, ces algues toxiques, on peut les voir dans l'eau ? Elles ressemblent à quoi ?
Ce sont des micro-algues microscopiques, donc on ne peut pas les voir en tant qu'organisme. C'est ça qui les diffère, en fait, qui les distingue des algues vertes, hein, qu'on voit très facilement à l'œil nu. Parfois, même microscopiques, elles peuvent atteindre des densités qui permettent de voir une coloration de l'eau. On parle alors d'eau rouge, d'eau verte ou d'eau brune. Par contre, les organismes même sont très très petits, donc c'est de l'ordre de 20 microns, hein. On ne peut pas les voir en soi. Et aussi, à noter, même si l'eau n'est pas colorée, elles peuvent atteindre quand même des densités qui rendent les coquillages suffisamment toxiques pour que nous, on puisse tomber malade en mangeant les coquillages.
Quelles sont les espèces qui sont connues pour être dangereuses autour de nos côtes françaises ?
Autour de nos côtes françaises, il y a un coupable qui apparaît pratiquement tous les ans, c'est le Dinophysis. C'est un dinoflagellé qui produit l'acide oxalaïque, donc une toxine, une fois accumulée dans les coquillages, devient une toxine diarrhéique. Donc on attrape des gastro-entérites en mangeant les coquillages contaminés. Mais on a aussi des efflorescences d'Alexandrium. Par exemple, en rade de Brest, en 2012, on a eu des concentrations de cet organisme qui ont provoqué l'accumulation de toxines dans les coquillages qui auraient potentiellement pu tuer des personnes si le système de surveillance ne les avait pas captées.
Philippe, ces micro-algues, certaines sont toxiques et évidemment posent problème, mais la plupart, quand même, il faut le rappeler, sont inoffensives et même bénéfiques à bien des égards pour l'océan et l'environnement, hein.
Tout à fait. Dans un premier temps, déjà, les micro-algues produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons, hein. Donc directement pour nous, très très important.
Bien sûr.
Mais ils sont aussi à la base de la chaîne alimentaire des océans. Donc les micro-algues nourrissent les copépodes ou les bivalves. Les copépodes sont mangés par les poissons et après nous on mange les coquillages, les bivalves, le poisson. Donc c'est tout à fait bénéfique pour nous.
Hervé Kempf.
Alors cette prolifération des cyanobactéries est due au rejet excessif d'azote et de phosphore. Quel est le rôle de l'agriculture dans ce phénomène ?
Alors il y a des apports en nutriments qui sont tout à fait océaniques, hein. Des fois ça peut venir de l'océan profond, mais en zone côtière il peut y avoir également les rejets anthropiques qui contribuent, hein. On a travaillé en France par exemple énormément sur la réduction du rejet de phosphore avec les stations d'épuration, en contrôlant les fermes de cochons, etc. Par contre, réduire le rejet de nitrates reste un défi majeur, parce que le nitrate, c'est vraiment le nutriment par excellence qui est utilisé dans l'agriculture, et donc très très difficile à diminuer pour un pays agricole comme la France.
On est capable de prédire à l'avance quand un bloom, en anglais, une efflorescence, va avoir lieu quelque part ?
On peut sûrement dire ou prédire les probabilités qu'il y ait une efflorescence. Parce que on a déjà des modèles en place qui permettent de voir le rejet des nutriments, par exemple fluviaux, qui se prédisent par la météo, hein. Donc on a déjà une possibilité de prédire à l'échelle de la météo, genre 5 jours à l'avance. Et après, avec des phénomènes majeurs globaux comme le changement climatique, on peut prédire aussi que la probabilité d'engendrer des efflorescences d'un certain type peut augmenter en fonction de l'augmentation de la température de l'eau.
Là, on dresse un premier bilan des espèces et de leur géographie. Est-ce que ça veut dire que maintenant on va pouvoir s'en protéger, les combattre ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce bilan ?
Ce bilan servira à mettre en garde les autorités déjà, parce que le phénomène étant essentiellement un phénomène naturel, on ne change pas les océans, mais par contre on peut augmenter la vigilance à travers la surveillance. Donc essentiellement mettre en alerte les autorités qui sont responsables de la surveillance des coquillages et des côtes, donc améliorer ce système-là.
Est-ce que plus d'algues dans l'océan, ça veut dire plus de CO2 capté dans l'atmosphère ou depuis l'atmosphère ?
Certainement, pour les micro-algues en général, elles constituent un tampon par rapport aux gaz à effet de serre, donc le CO2 entre autres, hein. Donc certainement, plus de microalgues il y a, plus il y a une possibilité de capter du CO2. Les Américains ont poussé ça déjà à jouer un peu aux apprentis sorciers, voir est-ce qu'on peut pas fertiliser l'océan pour justement capter plus de CO2. Mm-hmm. Ça reste encore à l'échelle expérimentale, mais c'est certes, on change notre planète de toute manière.
Merci beaucoup en tout cas Philippe S. pour vos précisions autour donc de ces micro-algues et à l'occasion de ce rapport paru vendredi, rapport de l'UNESCO et qui dressait le premier bilan de ces espèces et de leur lieu de vie. Merci également à vous avec EMF. On retrouve un article sur la question sur reporter.net j'imagine.
Tout à fait, comme tous les mardis.
Et on se retrouve lundi prochain. À demain Axel.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le lait du diable de Tasmanie qui serait efficace contre les bactéries qui infectent les hommes. On essaie de comprendre comment les petits diables de Tasmanie, bien au chaud dans la poche ventrale de leur mère, résistaient aux nombreuses agressions du monde extérieur. Les chercheurs ont découvert que le lait, justement, de leur mère contenait 6 peptides antimicrobiens particulièrement efficaces. Le lait humain n'en contient qu'un seul. Testé ensuite sur un échantillon de 25 bactéries et champignons pathogènes pour l'homme, le lait est venu à bout d'une majorité d'entre eux. Un espoir donc nouveau dans la lutte contre les maladies infectieuses, mais aussi contre les bactéries multirésistantes. Un fossile de poisson nous raconte l'histoire de l'évolution des mâchoire dans le monde animal, ce fossile d'un poisson nettoyeur ou mangeur de boue vieux de 423 millions d'années est en train de littéralement changer la compréhension de cette caractéristique anatomique indispensable qu'est la mâchoire. Long d'une trentaine de centimètres, ce poisson possède en effet une mâchoire en trois parties caractéristiques des vertébrés terrestres, y compris des humains. Une découverte qui vient remettre en cause de nombreuses théories sur l'évolution beaucoup plus tardive des mâchoires inférieures des vertébrés. Une vue d'artiste du mangeur de boue est visible sur la page Facebook de la Tête au Carré. Et puis on termine dans le monde de l'invisible et du tout petit avec les photos lauréates du concours Small World décerné par Nikon chaque année. L'heureux gagnant est un embryon de poisson zèbre de 4 jours seulement qui ne semble pas très content d'être photographié mais qui arbore de vives couleurs violettes et rouges. Parmi les autres photos magnifiques et microscopiques que vous retrouvez en lien sur le Facebook de l'émission, les minuscules dentelles jaunes fluo d'une bouse de vache et les cristaux d'agate comme vous ne les avez absolument jamais vus. Allez, l'ordinaire d'Internet, c'est notre dossier dans un instant.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus deu, Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem do mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem do mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho. Deus dê, ah, ah, ah,
que Deus deu,
oh, oh, oh,
que Deus dá,
ah, ah, ah,
que Deus deu,
oh, oh, oh,
que Deus dá,
ah, ah, ah,
que Deus deu,
oh, oh, oh,
que Deus dá,
ah, ah, ah,
que Deus deu,
oh, oh, oh,
que Deus dá.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu. Ah, 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 ah.
Toda Menina Baiana avec la voix de Gilberto Gil.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et Internet dans nos pratiques quotidiennes. Dossier de l'émission avec mes invités, les sociologues Olivier Martin et Eric Dagiral. Vous êtes tous les deux enseignants-chercheurs à Paris Descartes et chercheurs au CERLIS, c'est le Centre de Recherche sur les Liens Sociaux. Et votre ouvrage, L'Ordinaire d'Internet, le web dans nos pratiques et relations sociales, paraît chez Armand Collin, avec les messages des auditeurs qui arrivent déjà sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Internet, évidemment, c'est une transformation du monde, de la société, avec ses habitudes, nos usages les plus courants qui ont beaucoup changé. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, tout le monde a accès à Internet un peu plus de 20 ans après son apparition, Olivier Martin?
Non. Même si les taux de diffusion et d'installation et d'accès à Internet sont quand même très élevés aujourd'hui, alors je serais incapable de vous donner le chiffre exact, mais on doit avoisiner les 80-90%. Mm-hmm. C'est d'un ordre d'idée, hein, c'est pas un chiffre exact.
Ouais, ouais.
Tout le monde n'a pas accès, et donc là on retrouve quand même une des grands classiques des travaux de sociologie, c'est qu'il y a des inégalités sociales. On a longtemps parlé de la fracture Internet,
absolument,
la fracture numérique,
ouais,
les inégalités d'accès aux outils du web et à tous les terminaux, dispositifs divers et variés.
Elle existe encore.
Alors, on en parle moins, c'est un peu moins au centre des politiques publiques, c'est un peu moins au centre des recherches et des réflexions, mais elle existe encore.
Pourquoi ? Parce que justement, Internet est plutôt chez la majorité de la population.
Parce que même si beaucoup de services Internet sont gratuits, il faut quand même l'équipement, ne l'est pas.
Ouais.
L'abonnement ne l'est pas. Les terminaux ne le sont pas. Et le renouvellement doit être assez fréquent aussi. Donc, il y a des politiques publiques, hein, notamment dans les collèges, par exemple, où on offre, on prête aux collégiens un ordinateur pour justement essayer de lutter contre ces éléments de fracture qui persistent, mais ça ne suffit pas encore.
Ouais. Éric Dagiral, comment vous avez travaillé ? Alors là, on va parler un tout petit peu de méthodologie, là, c'est votre travail de sociologue qui m'intéresse, sur cet ordinaire d'Internet, pour en savoir plus sur le web dans nos pratiques. Vous êtes allé à la rencontre des usagers, des sites, comment vous avez pratiqué ?
C'est cela, on peut dire que pour quasiment l'ensemble des auteurs de l'ouvrage, il y a un principe un peu directeur qui guide leur travail. Alors nous, le gros mot, c'est de dire qu'ils font de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont observer les pratiques des individus. Ils vont voir, en fait, le sociologue va non pas aller voir des contenus qui se trouvent sur Internet, mais va aller voir ce que font les gens, comment ils vivent avec Internet.
Ouais.
Et vivre avec Internet, c'est pas forcément être rivé derrière un écran. Donc, c'est réaliser des entretiens, faire des observations, par exemple, dans les foyers des individus et d'individus de toutes origines et catégories sociales. C'est aussi quelque chose qui est important. Hein. Il s'agit pas de rester en Ile-de-France auprès de catégories professionnelles plutôt supérieures, ce qui était forcément l'ordinaire de l'Internet du milieu des années 90. Ça ne l'est plus du tout aujourd'hui, hein, qu'on pense à des sites comme Le Bon Coin, par exemple, comme on va sortir. Et le principe qui a guidé un petit peu l'essentiel de ces sociologues, c'est de se dire, on a des pratiques en ligne, mais ces pratiques en ligne, en fait, ne sont jamais coupées des pratiques en dehors d'Internet.
Exactement.
Et il faut saisir pleinement les continuités.
Ouais. Au fond, c'est le réel du virtuel qui vous a intéressé aussi dans cette démarche.
Hein. Et parfois, le réel du réel, c'est-à-dire où, d'une certaine manière, on continue quelque chose qui est initié sur Internet, mais en coupant Internet ou en n'y ayant pas accès.
Ouais.
Hein. C'est un des résultats d'un des travaux. Par exemple, sur des sites de rencontres, un des aspects les plus marquants, c'est que très rapidement, on poursuit le contact par téléphone.
Ouais.
Par téléphone pour avoir plus d'informations ou d'autres informations autrement.
Et pour entendre aussi peut-être une voix. Olivier Martin, pourquoi la sociologie doit s'intéresser justement aujourd'hui à nos pratiques numériques ? Qu'est-ce que ça dit de la société au fond ?
Premièrement, il y a deux questions. Pourquoi est-ce que la sociologie doit s'intéresser? Parce qu'au fond, justement, c'est un peu ce qu'on essaie de marquer dans nos titres. C'est devenu ordinaire, c'est devenu banal, c'est devenu presque incontournable. Que ce soit dans le contexte du travail, que ce soit dans le contexte des études, que ce soit à la radio aussi, je le vois ici, que ce soit pour les loisirs, pour organiser des voyages, pour contacter une famille qui peut être très loin dans le monde, pour discuter avec des oncles ou des tantes qui peuvent être dispersés en France ou ailleurs. Donc c'est devenu un outil qui est centrale dans beaucoup d'activités.
Donc ce n'est plus une activité en soi.
Et on rappelez-vous peut-être il y a 10, 15 ans, peut-être, oui, il y a 10 ou 15 ans, on disait je vais sur Internet, je suis sur Internet. Aujourd'hui,
ce serait ridicule de le préciser.
De le dire.
Donc, c'est ça.
Internet, c'est complètement encastré dans nos usages, dans toutes nos pratiques, dans beaucoup des dimensions de nos activités. Donc là, pour ça, pour cette raison-là, la sociologie ne pouvait pas ne pas s'y intéresser.
Alors qu'est-ce que ça raconte justement de notre société aujourd'hui ?
Alors, ça raconte, en fait, il y a des mots qui sont souvent associés à Internet, qui est le mot révolution, Alors, soit positive, ça va par exemple promettre davantage de démocratie, davantage d'accès à la connaissance à tous, etc. On va faire disparaître les frontières sociales, géographiques, etc. Parce qu'Internet va aplanir le monde. Donc ça, c'est le premier type de révolution qu'on nous promet parfois, notamment de la part des constructeurs, des promoteurs. Et puis, il y a une autre révolution qui est beaucoup plus sombre, qui nous dit ça va faire disparaître notre culture, ça va faire disparaître nos habitudes, ça va faire disparaître notre vie privée, ça va faire disparaître tout un tas d'éléments auxquels nous sommes attachés, qui ont ou sont au cœur de nos sociétés. Et donc, entre ces deux révolutions, une révolution un peu euphorique, puis une révolution un peu sombre, notre travail en tant que sociologue, c'est de montrer où se situe, au fond, la réalité. Il est beaucoup question de réalité dans notre ouvrage, montrer jusqu'à quel point on n'est pas dans un monde virtuel qui serait sombre ou au contraire très lumineux. On est dans la société, on est dans le social, on est dans les relations humaines et avec de l'Internet, avec Internet. Et donc, c'est ça le... Le principal message, au fond, c'est de montrer à quel point Internet s'est à la fois encastré dans nos habitudes et sans révolutionner toutes nos sociétés. Des choses ont changé, mais ça n'a pas révolutionné fond en comble l'ensemble de nos sociétés. Il y a des trends historiques qui, enfin, on y reviendra certainement tout à l'heure, mais il y a des choses qui étaient profondes dans les transformations qui sont portées par Internet, qui étaient déjà préexistantes avant Internet.
Ouais. Éric Desgiral, c'est quand même une technologie qui a changé quand même nos habitudes très rapidement quand même. On a intégré très très vite au sein de nos pratiques précisément cette nouvelle technologie.
Quand on évoque Internet, on a tout de suite l'impression qu'il y aurait comme ça comme une accélération du changement. Donc les résultats quand même néanmoins des travaux présentés dans l'ouvrage montrent que ces reconfigurations ont pris du temps. Le début d'Internet, la manière dont on en parle en société, dans la presse, dans les médias, c'est déjà il y a 20 ans, et même un petit peu plus, et Internet avait déjà alors bien plus d'une quinzaine, voire une vingtaine d'années d'existence dans des mondes un petit peu plus confinés. Et là, une difficulté que pointent tous les travaux, c'est de montrer que il n'y a pas de déterminisme technique. Aussi, il n'y a pas de déterminisme technique. C'est pas parce qu'un nouveau site Internet émerge, pas parce qu'Internet arrive, que inéluctablement, ça produit du changement. Un exemple rapide, par exemple, sur les sites de rencontres, ce n'est pas parce que, comme le montre Marie Bergström dans l'ouvrage, une relation en ligne devient plus souvent sexuelle ces relations sont plus souvent occasionnelles que c'est nouveau. En fait, ça rejoint une dissociation qui est observée depuis déjà des années et des années entre ce qu'est la sexualité et ce qu'est la mise en couple et la conjugalité. Donc, insister sur l'idée comme ça qu'il y aurait des conséquences inéluctables au développement d'Internet va pas de soi. Et la deuxième chose, c'est que bien souvent, les éléments qui nous sont évoqués, qui sont discutés à un moment donné comme étant les évolutions futures, sont finalement largement contrebalancées. Par exemple, il y a 10 ans, on aurait beaucoup discuté du devenir d'Internet et de nos sociétés en référence au monde virtuel de Second Life. Je pense qu'on parle là quelque chose d'un petit peu oublié. Mmh. Et par contre, des sites tels que On va sortir ou Le Bon Coin, on peut raisonnablement penser que plein de gens ne les ont pas vus arriver.
Alors justement, On va sortir, c'est un site, on a fait notre petite enquête qui existe depuis 2005 aujourd'hui, dont peut-être beaucoup d'entre nous n'ont pas entendu parler. Et pourtant, eh bien, ça facilite, en tout cas ça permet à des gens de se rencontrer. Écoutez cet extrait.
Lancé il y a moins d'1 an sur la Côte d'Azur, le concept a trouvé son public. En ce dimanche ensoleillé, ils étaient plus d'une centaine à pique-niquer tous ensemble, tous désireux d'élargir leur cercle d'amis.
Dans les journées de travail, on n'a pas forcément l'opportunité de rencontrer des amis ou des futurs amis.
C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se rencontrer les uns les autres et c'est l'occasion de voir un peu du monde, faire des activités ensemble.
Au début, on organisait une sortie par semaine. Là, maintenant, c'est de plus en plus une sortie par jour.
Des sorties conviviales et amicales, le site Internet ne veut surtout pas devenir un espace de rencontre pour célibataires.
On vérifie simplement que des gens ne prennent pas ça pour un site de drague gratuite. Bon, ça, il y en a pas mal. Mais sinon, on modère un peu. Bon, on doit absolument empêcher les sorties commerciales, qu'il n'y ait pas des gens qui se servent du site pour se faire de la publicité.
Internet, un formidable outil de communication qui, finalement, loin d'isoler les gens, les pousse à se rencontrer. Cette journée dans le pré n'avait rien de virtuel.
Voilà, Olivier Martin, on va sortir donc un site parmi tant d'autres. Créateur de liens sociaux, on pourrait présenter comme ça ou
pas? Sans doute, c'est un travail, en tout cas ce travail sur On va sortir, c'est le fruit d'une longue enquête d'une collègue à nous qui s'appelle Anne-Sylvie Farabou, qui est donc contributrice à cet ouvrage. Bien sûr que ça crée du lien social, mais c'est un lien social justement, en tout cas sur les éléments qu'apporte Anne-Sylvie Farabou, un lien social qui arrive à renaître à des moments de la vie ou dans des circonstances où on est un peu en souffrance de ce point de vue-là. Mm-hmm. On peut penser notamment à ceux qui, après une séparation, un divorce ou bien un déménagement loin, ou à un moment, arrivé à un moment de leur vie où, de cette manière, les enfants ne sont plus là, le conjoint n'est plus aussi présent, et bien on veut reconstituer une vie, une sociabilité, des amis, des sorties, on veut pouvoir de cette manière regoûter à d'autres plaisirs de la vie, et on va sortir correspond très très bien à ce besoin. Donc là, ouais. Pour revenir un petit peu à ce que disait Éric Dagirel tout à l'heure, on n'est pas dans un déterminisme technique où, au fond, l'outil « on va sortir » provoque les sorties. On peut considérer que le succès, un peu discret, mais quand même très fort de « on va sortir », c'est un succès, simplement un site qui offre un service que les gens attendent.
Ouais, ce qui veut dire, Éric Dagirel, que la compagnie de personnes inconnues devient en soi donc une activité, un loisir ?
Oui, en tout cas pour certaines personnes, ça correspond à une recherche, à tel point d'ailleurs qu'un des éléments saillants de cette étude sur « on va sortir », c'est que d'une certaine manière, il ne s'agit pas d'une sociabilité où le site garde très longtemps une importance centrale. C'est-à-dire, c'est pas des individus qui passent un temps fou sur ce site à regarder les profils d'autres personnes, hein, ce qui correspond bien sûr à l'image de sites de réseaux sociaux, vous l'aurez compris. C'est plutôt l'idée qu'on a une accroche ici, on trouve un projet, voire on en crée un, parce que toute la question se pose très vite aux utilisateurs de se dire quelle sortie moi-même je pourrais imaginer organiser. Est-ce que c'est plutôt aller au cinéma, organiser une partie de jeux de société avec des inconnus, mais très vite, la manière dont on rencontre les gens et qui fait qu'on va continuer éventuellement à les voir, ça se fait loin d'Internet. Et ces échanges, ils se font en faisant des rencontres.
On va donner d'autres exemples avec vous dans quelques instants. On va même parler tricot, puisque vous avez visiblement été très intéressé par le web et la façon dont ça a changé cette pratique qu'est justement le tricot. Mais ce ne sera pas le seul thème de notre dossier. D'autres messages arrivent pour vous sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque.
Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train. Sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, je change de wagon, je change de train. Y'a de tout dans ce train, des gens qui dorment, des chiens qui pissent, des femmes enceintes et des enfants bruyants. Le matin c'est bondé, le soir c'est blindé, ça pue, ça chante, ça se lamente, tout ça se vend d'avoir une petite vie, oui monsieur, d'avoir une vie monsieur. Parfois les femmes se maquillent, se parfument parce qu'elles sont moches et qu'elles puent parfois des mecs enivrés, défoncés en mer les passagers, mais c'est jamais bien méchant dans le TER centre. Le trajet, je le connais par cœur. De la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal, on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir de douleur, elles crissent, elles frémissent. Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment fatiguées, éreintées d'une journée épuisante. Les chances s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends tes versants. Soir, soir et matin, change de wagon, change de train. Sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, change de train. Y'a de tout dans ce train, des gens qui pensent, des gens qui pensent aux gens, des gens qui pensent aux gens qui pensent, ceux-là sont un peu barrés quand on y pense. On voit des mecs qui décuvent d'une soirée. Au calme, on croise des jolies minettes tombées au bord des larmes. Y'a de tout, y'a une âme, un truc qu'on n'explique pas dans le TER centre. Dans le TER centre, y'a pas d'étiquette. On détruit les notions inculquées trop jeunes dans les têtes. C'est hétérogène, on se prend pas la tête. On n'a pas les mêmes gènes dans le TER centre. Les gens qui voyagent ne se parlent pas beaucoup, mais je crois bien qu'ils s'aiment quand même. En même temps, tu te sens proche de l'autre quand tu partages un retard d'une heure 57.
Team Dup, TER Centre sur France Inter. Et dans la tête au carré, nous parlons de l'ordinaire d'Internet avec mes invités Olivier Martin et Eric Dagiral. Et ce livre qui paraît chez Armand Collin, Les mails des auditeurs, justement. Sylvain nous dit, suffit de chercher à vouloir une activité professionnelle depuis presque n'importe quel village pour se rendre compte que quasiment aucune commune de moins de 700 habitants n'est correctement raccordée. Olivier Martin, un petit mot là-dessus. On parlait de la fracture numérique.
Oui, on parlait de fracture numérique, on pensait beaucoup à la fracture numérique entre catégories sociales, entre classes d'âge, mais là la fracture numérique est aussi territoriale, géographique. C'est évident, cet auditeur a parfaitement raison.
Éric Dagiral, le web et le tricot. Alors voilà deux univers a priori diamétralement opposés qui n'ont rien à se dire, et pourtant, au contraire, vous avez enquêté auprès des utilisatrices plutôt, de ces sites. Qu'est-ce qu'Internet a apporté à la pratique du tricot? Alors pourquoi vous êtes intéressé à ce thème?
On s'est intéressé à ce thème par l'intermédiaire de la sociologue Vinciane Zaban, qui avait trouvé, était parmi les premiers à considérer qu'on avait là un bon exemple d'une pratique qu'on n'associait pas comme ça spontanément du tout aux nouvelles technologies, pour lequel une très vieille technologie, et qui pour autant, son étude le montre, est largement touchée, reconfigurée, par Internet à plusieurs titres. Le premier titre, c'est d'une certaine manière que déjà Internet est un outil qui rend possible l'apprentissage de la pratique du tricot. C'est, on sort du schéma où pour des jeunes femmes qui n'auraient pas eu, c'est le cas prototypique, leur mère ou une grand-mère qui aurait transmis comme ça des connaissances du tricot. D'une certaine façon, Internet présente tout un ensemble de ressources et de vidéos notamment, donc de tutoriels qui permettent d'une part de s'y mettre. Une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins qu'au début des années 80, par exemple, encore de boutiques de laine dans tout un tas d'endroits, à l'époque où des réseaux étaient assez implantés dans les centres-villes en France. Et pour le coup, des produits, des techniques, des conseils deviennent accessibles par le web. Il est possible d'acheter des éléments sur Internet pour s'y lancer. Et puis tout ça reconfigure aussi un petit peu ce milieu du tricot qui n'avait pas cessé d'exister, qui était peut-être un petit peu moins visible. Et il est remis au centre et concerné par exemple le fait que les salons professionnels, des boutiques en ligne et physiques reviennent, et qu'on peut aussi jusqu'au point de dire aujourd'hui que pour en tout cas certaines catégories sociales, le tricot est peut-être devenu un petit peu à la mode.
Olivier Martin, et ça ouvre des horizons, on le voit, parce qu'on peut tricoter en anglais, on peut choisir certains types de laine, on rend public sa pratique, on sort de son coin, enfin bref, voilà tout ce que ça génère.
Vous avez raison, ça a ouvert des horizons, c'est-à-dire qu'au fond, auparavant, des catalogues étaient, les transmissions étaient effectivement souvent familiales, en tout cas dans le cercle familial ou le cercle privé. Les connaissances, les fils, etc. On pouvait se fournir qu'au fond à la petite boutique du quartier ou de la ville. Et là, de cette manière, la gamme des fils possibles, des aiguilles, des techniques, des modèles, tout ça, c'est complètement enrichi.
Ouais. Et vous montrez bien à quel point, d'ailleurs, Internet aujourd'hui, c'est aussi un lieu où on peut constituer un réseau de connaissances, et c'est cette culture commune qui est partagée. Et ça, c'est vraiment la singularité aussi d'Internet.
Oui, parce que là, il y a un élément qui est très important et qu'on trouve tout au long des différentes contributions dans cet ouvrage. C'est l'élément, ce qu'on appellerait de la conversation. C'est-à-dire que Internet n'est pas simplement un lieu d'information, c'est un lieu aussi où on échange, il y a une vraie conversation. Et que ce soit sur le tricot qu'on évoquait à l'instant, ou dans d'autres contextes, un forum à propos de la Première Guerre mondiale, etc., les gens engagent la conversation. On ne va pas simplement chercher l'information, on en donne, on en échange, on discute, on construit quelque chose, alors parfois de la connaissance, et en tout cas, un lien.
Est-ce que ce sont les nouvelles sociétés savantes, au fond? Ces forums
ça y contribue, en tout cas. Je ne sais pas si ce sont les nouvelles sociétés savantes, parce que la question est très compliquée, mais en tout cas, ça y contribue, c'est sûr. Les forums, que ce soit y compris dans les disciplines, disons, qui sont peut-être un peu éloignées, les disciplines scientifiques les plus fondamentales, comme par exemple les mathématiques, il y a beaucoup de discussions et d'échanges dans les forums.
Alors, les courriels des auditeurs, Natalia sur Twitter nous dit, avec le site dont on parlait tout à l'heure, on va sortir, je me suis fait plus de vrais amis que dans le reste de ma ma vie. Est-ce grave, docteur Éric Desgiral, si vous voulez lui répondre?
Alors, je ne suis pas docteur, je suis sociologue. Donc, je dirais que bien sûr, c'est tout. D'une part, peut-être que c'est tout sauf grave, mais trêve de plaisanterie. C'est un élément qui est très, très difficile et qui pose problème pour tous les sociologues qui ont enquêté sur tous ces sujets. Donc, on l'a compris, assez varié. C'est que bien sûr, tous les individus qui ont des pratiques sont renvoyés à des catégorisations qui pose problème. On a parlé de l'opposition entre réel et virtuel. Ici, ce que serait un vrai ami, un faux ami, un ami plus ou moins vrai est extrêmement délicat. D'une part, parce que les termes nous sont mis à l'oreille par, bien sûr, les concepteurs de technologie. Typiquement, le terme ami, on l'employait pas forcément il y a tant de temps que ça. C'est la montée du site de réseau social Facebook qui fait qu'on se positionne aussi par rapport à ça, ouais. Alors que dans les jeux vidéo, par exemple, on parlait beaucoup de, effectivement, jouer, de se rencontrer in IRL, in real life, dans la vie réelle. Ouais. Et ces oppositions ont la vie dure, mais pas de doute qu'une sociabilité initiée par Internet, si elle se poursuit par quelque médiation technologique que ce soit en s'envoyant une lettre de temps en temps, en échangeant un coup de fil ou autre, peut sembler aux individus tout aussi authentique qu'une autre. Ouais,
et pourtant, Olivier Martin, Dassouille sur Twitter, autre auditeur, nous dit « Le réel est pourtant modifié par Internet. Par exemple, les relations électroniques compliquent sévèrement la donne avec des organismes comme Pôle emploi ou les centres d'appel. »
Alors, je pense que dans ces affaires qui sont extrêmement compliquées, il faut distinguer à la fois les transformations économiques, sociales, organisationnelles, etc., qui sont authentiques, les difficultés que connaissent par exemple ce type de service public, et puis le fait qu'Internet contribue dans ces transformations. C'est qu'il y a des choses qui sont peut-être structurelles, qui sont liées au fait que Pôle emploi a de plus en plus de travail, peut-être moins en moins de moyens, je suis pas là pour en juger, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on entend dire, et que simultanément, eh bien, on essaie de confier à Internet un certain nombre de tâches qui auparavant étaient réservées à des experts, à des conseillers, etc. Donc c'est aussi parce que de temps en temps, ça revient un tout petit peu ce que je disais tout à l'heure sur la révolution euphorique, c'est qu'on espère que l'outil informatique va résoudre un tas de problèmes que l'homme ou que les infrastructures humaines n'arrivent pas à résoudre. Ça c'est une erreur et c'est une erreur qui fait des dégâts parfois.
Est-ce qu'on peut parler d'une génération Internet? Question posée également dans votre ouvrage avec ce courriel tient de Jean-Paul qui nous dit Internet demande une initiation à la pratique du web et de ses codes qui pénalisent les générations âgées qui peuvent en dépendre de plus en plus. Éric Desgiral. Alors là aussi, il y a un certain nombre de choses qu'on pense, qu'on imagine et qui sont fausses au fond.
En tout cas, qu'il est nécessaire de bien recontextualiser cette idée que l'habileté technique, parce que c'est de ça dont il est question, des compétences techniques de l'ordre de la maîtrise seraient indissociablement liées avec des effets d'âge, voire de génération. Beaucoup d'enquêtes montrent que, par exemple, dans les personnes qui font des sorties par un site tel qu'on va sortir, peuvent être des personnes qui sont typiquement des personnes qui sont à la retraite. Une bonne partie. D'une certaine manière, elles trouvent une utilité et elles réussissent à utiliser Internet dans tout un tas d'activités. Et d'un autre côté, quand on regarde précisément, c'est ce que fait notre collègue Cédric Fluquiger dans l'ouvrage, les pratiques des plus jeunes, des étudiants notamment.
Les digital natives, ceux qui sont nés avec Internet.
Voilà, sont nés avec Internet, mais qui sont aussi nés avec le téléphone, qui sont aussi nés avec
le livre.
D'une certaine manière, le livre, tout autant. Ils sont aussi nés avec. On voit d'une certaine manière que cette habileté technique, elle va pas forcément de pair avec toutes les conventions sociales. L'exemple qu'il prend, c'est par exemple des étudiants qui s'adressent à leurs enseignants et qui manifestement n'en ont pas du tout les codes. Pas du tout les codes, alors que bien sûr, l'usage de Facebook ou par exemple de Snapchat pour échanger avec d'autres élèves leur va très très bien. Mais il y a un moment, un hiatus parfois.
Vous parlez de l'écrit justement, la façon dont sont formulées les choses. Il y a une étudiante qui envoie à son enseignant ce petit mail. « Bonjour, est-ce que vous pouvez me dire quel dossier qu'on doit rendre demain? Merci. »
Voilà. Et d'une certaine manière, ce que ne dit pas cet extrait, c'est qu'on ne sait pas, l'étudiant ne dit pas à quel niveau il est, en quelle année par exemple de licence, dans le cadre de quel cours il s'adresse à un enseignant qui lui ne sait pas forcément de qui il s'agit.
Amalgame entre la communication formelle et l'écrit immédiat. Et pour illustrer ce sujet, un extrait d'un documentaire sur Arte sur la génération Y.
Le monde du travail tente de s'adapter.
Voilà, asseyez-vous tranquillement.
C'est le cas de la société BVA, un institut d'opinion. 500 employés, dont beaucoup de Y. Un coach, Emmanuel Faure, vient aujourd'hui conseiller les managers, parfois déroutés par le comportement de ces jeunes. Comme Caroline, avec une de ses stagiaires.
On faisait un événement et je lui ai demandé de m'aider sur une tâche sans intérêt, on va pas se mentir, une tâche vraiment pas intellectuelle. Et elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « ça n'est pas mon rôle ».
Je me reconnais pas dans ce mode de fonctionnement. Moi, on me disait quelque chose, t'es mon chef, je le faisais, quoi.
Le rôle d'Emmanuel, aider à sortir des clichés.
Immature, ils le sont pas.
Plutôt immature, moi.
Moi aussi, je dirais immature.
Et faire comprendre à ses managers que leur seule solution, c'est d'aborder autrement la hiérarchie.
Alors, est-ce que ça modifie justement les liens sociaux et en particulier la hiérarchie au sein des différentes générations, avec cet extrait qu'on vient d'entendre? Olivier Martin, est-ce que vous voulez répondre?
C'est difficile, très difficile, votre question est redoutable. Oui, bien sûr, mais là aussi, il faut dissocier, je voudrais voir la même réponse que tout à l'heure, il faut dissocier ce qui relèverait éventuellement d'un effet Internet, de ce qui relèverait d'un effet des transformations culturelles profondes, ouais, qui sont liées à d'autres événements. C'est-à-dire que peut-être que Internet, peut-être que la communication, disons, d'égal à égal, auquel on est habitué grâce au téléphone, grâce au l'email, grâce au SMS, etc., ça a peut-être contribué à atténuer le sentiment qu'il y a de hiérarchie. Mais ce n'est pas à cause d'Internet que les problèmes de hiérarchie peuvent se poser selon les contextes.
C'est Allez, on se retrouve dans un instant, suite de notre discussion avec les messages des auditeurs. Fools, Albatros sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Suite et fin de notre discussion sur l'ordinaire d'Internet à l'appui de ce livre sorti chez Alarmant Collin avec mes invités Olivier Martin et Éric Dagiral. Les messages des auditeurs, Jean nous dit ceci. Les collégiens ont de plus en plus de recherches à faire sur Internet et le copier-coller devient une habitude. Comment est-ce que ça modifie leur manière d'apprendre? Qu'est-ce qu'ils apprennent, demande Jean? Que lisent-ils? Que retiennent-ils? Et pour les adultes, voilà cette petite question pour vous. Olivier Martin, vous voulez y répondre?
Oui, je vais essayer. C'est sûr que ça change. Ça, c'est incontestable. On ne peut pas simplement demander à nos étudiants ou aux élèves des collèges et des lycées aujourd'hui de faire un exposé sur quelque chose, parce que l'exposé se trouve déjà en 1000 exemplaires sur Internet. Bon. Donc ça change deux choses. Ça change notre manière d'enseigner. Déjà, le type d'exercice qu'on demande aux étudiants, aux élèves doit changer. Et ça change certainement la manière dont on doit apprendre aux étudiants, aux élèves, à se repérer dans cette masse d'informations. Je dirais même que c'est un des enjeux principaux de l'information, de l'éducation, de la formation qu'on doit donner aux élèves et aux étudiants, c'est d'arriver à naviguer, au sens fort du terme, de naviguer dans cette masse d'informations.
Ça change radicalement aussi notre façon d'apprendre aujourd'hui, d'avoir un esprit critique, de pouvoir analyser des informations et d'en tirer aussi une pensée personnelle.
Si on apprend à le faire, oui. Un des dangers, ce serait de considérer, de continuer à faire croire à nos enfants, à nos élèves et étudiants, qu'on trouve la vérité sur Internet. Non. Sur Internet aussi, on trouve des choses qui ne sont pas tout à fait vraies, qui ne sont pas authentifiées, il y a des controverses, etc., qui ne sont pas réglées, etc. Donc, si on arrive à donner ces clés de lecture à tout un chacun, en particulier aux jeunes, qu'ils soient natifs ou pas, c'est évident que là, il y a un enjeu de société, un enjeu d'éducation qui est radical. Donc ça change les pratiques des enseignants, ça doit changer les pratiques des enseignants et ça doit changer notre manière d'avoir un rapport à la connaissance. Auparavant, lorsque moi j'étais étudiant, lorsque j'étais élève, la vérité se trouvait dans l'encyclopédie papier, Universalis ou Larousse, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On sait qu'il y a beaucoup de choses très très bonnes sur Wikipédia. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont un peu moins bonnes ailleurs. Il faut arriver à naviguer, à croiser les sources et avoir un esprit critique. Donc oui, on peut espérer que l'éducation nationale, en général, l'éducation au sens large, forme à l'esprit critique. Ça serait une très très bonne chose.
Éric Dagiral, vous dites quand même dans le livre à quel point ça a modifié le rapport au plagiat, tout simplement, le phénomène copier-coller, précisément.
Oui, mais qu'est-ce que ça le modifie? Une des choses caractéristiques qui revient toujours avec Internet, c'est qu'en tout cas, ça le rend visible. Parce que c'est presque plus facile de faire un copier-coller que de prendre le temps de recopier une page d'encyclopédie. Ouais. Donc il y a une immédiateté, parce que du coup l'enseignant qui recherche un élément du devoir de l'étudiant et qui tombe sur la source, il y a un effet d'immédiateté, de la preuve comme ça. Mais cela dit, c'est rendu plus visible. Après, d'une certaine manière, est-ce que les étudiants n'avaient pas déjà ce rapport aussi avec d'autres types de documents et notamment des documents écrits et que les enseignants n'en avaient pas forcément toujours conscience? Là, on s'en rend compte parce que aussi, et ça nous pousse à modifier un petit peu le type de travail que nous demandons.
Proxygène sur Twitter, c'est son nom, nous dit « Les réseaux entre voisins servent aussi à créer du lien entre les générations et inventer une économie collaborative différente ». Vous êtes d'accord avec ça, Éric Dagiral ?
On peut qu'être d'accord en partie, oui, tout à fait, avec cela. Il y a une forme d'effervescence, un petit peu de lien. Encore une fois, y en a une sans Internet. Elle en transforme un petit peu les règles, elle en transforme peut-être un petit peu les conventions, mais certainement que ces échanges entre voisins peuvent avoir lieu sans et aurait eu lieu d'une autre manière, autrement. Mais bien souvent, ce qui attire notre attention, c'est que parce qu'il y a ces sites, parce qu'il y a ces traces, d'une certaine manière, ça nous permet de les regarder, ça incite parfois à les regarder sous un nouveau jour, parce qu'ils nous sont plus visibles, là où ces pratiques seraient peut-être restées totalement privées et n'auraient pas interpellé le journaliste ou quiconque dans l'espace public.
Arrêtons-nous un instant sur ce réseau social bien connu qui est Facebook, avec, pour en parler, extrait bien sûr de ce film The Social Network.
Tout le monde veut aller sur le net pour se regarder sur ses amis, alors pourquoi ne pas concevoir un site avec tout ça, amis, photos, profils, des contenus qu'on peut visiter, parcourir, pourquoi pas quelqu'un qu'on a vu à une fête. Attention, je parle pas d'un site de rencontre. Je te parle de prendre tous les constituants de la vie sociale de l'université et de les mettre en ligne.
Je sens plus mes jambes.
Je sais. Ce projet me met aussi en transe. Mais, Wardo?
Ouais. Ça devra être sélectif.
On devra connaître les personnes du site pour passer à d'autres pages, tu vois, se faire brancher.
C'était une super idée. Il n'y avait rien à pirater, les membres allaient fournir eux-mêmes leurs photos, leurs informations, et tout le monde avait la possibilité d'inviter ou de ne pas inviter ses amis à les rejoindre. Dans un monde où les relations sociales sont la base de tout, c'était le Graal.
Voilà, excellent résumé dans cet extrait du film de David Fincher, The Social Network, pour parler de Facebook. Qu'est-ce que ça a changé aux relations entre les différentes générations et les jeunes en particulier, Olivier Martin ?
Facebook, comme beaucoup d'autres réseaux sociaux, ont permis de cette manière d'abattre un certain nombre de, en tout cas d'atténuer un certain nombre de frontières, les frontières de la distance. Mm-hmm. Je citais tout à l'heure en début d'émission ce cas assez fréquent qui n'est pas documenté dans le livre mais qui est même assez documenté par ailleurs, de ces migrants qui gardent contact avec leur famille d'origine. Donc les réseaux sociaux, les outils de communication en général ont permis d'effacer ou d'atténuer l'effet de la distance, l'effet de l'éloignement qui auparavant signifiait la fin du lien. Donc ouais. Le lien persiste. Ça a diminué, ça a changé aussi le rapport au temps, c'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de rapport à l'espace, c'est aussi un rapport au temps. On peut trouver, on peut continuer à avoir ses copains d'enfance, il y a des sites comme mm-hmm. copains d'avant, etc. Facebook aussi permet de retrouver pas mal d'amis d'enfance, de garder un lien et donc ça densifie un peu les réseaux. Et je rejoindrai un tout petit peu ce que disait tout à l'heure Eric, c'est-à-dire que ça n'a pas certainement transformé toutes nos pratiques de relations sociales. En revanche, ça les a rendues très visibles. C'est ça qui est un peu déroutant, un peu troublant et qui pose des questions sur la vie privée, qui interroge beaucoup en général, c'est parce que tout ça est devenu maintenant visible. Ce qui se faisait auparavant est devenu visible.
Oui, et on cède facilement ces informations d'ailleurs sur ces réseaux, sans trop se préoccuper justement de ces notions de liberté et de vie privée.
En même temps, l'enquête dont on fait part avec Olivier Martin montre quand même que quand on fait une enquête par questionnaire rigoureuse auprès de cette tranche d'âge 18-25 ans, on voit que quasiment tous ces jeunes font extrêmement attention aux informations qu'ils partagent et avec qui, acceptent très peu de sollicitations d'inconnus notamment.
C'est donc le thème de ce livre collectif d'auteurs avec l'ordinaire d'Internet, c'est le web dans nos pratiques et relations sociales, Olivier Martin et Eric Dagiral, et ce livre paraît aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Et merci aux auditeurs pour les messages. Vous pouvez d'ailleurs poursuivre vos discussions sur franceinter.fr. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Villard.
C'est lundi, c'est reparti avec Affaires Sensibles, le thème aujourd'hui.
Une affaire que vous connaissez forcément, l'affaire Mérine, Jacques Mérine, qui fut l'ennemi public numéro 1 en son temps et qui a été tué, vous vous souvenez, à la place de la porte de Clignancourt par un certain nombre de policiers, dont Jean-Louis Firmenghi, qui est notre invité aujourd'hui.
Et ce sera juste après les informations pour revivre la grande saga Jacques Mérine.
Absolument.
Merci Fabrice, à tout à l'heure.